There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast Faits divers du Parisien.
Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui.
Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété.
Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir.
Un couple et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel.
Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni. Bonjour Damien.
Bonjour Claudia.
Aujourd'hui dans Crime Story, le meurtre d'Audrey Joanet.
Une étudiante qui disparaît, un scénario machiavélique et une erreur judiciaire évitée de justesse.
Audrey Joanet est une jolie jeune femme blonde, décrite comme vivante, pétillante, appréciée de ses amis et qui étudie la communication et le journalisme. Âgée de 24 ans, elle vit et a toujours vécu dans le nord de l'Essonne, à Soisy-sur-Seine, dans une commune résidentielle à côté d'Évry. Audrey habite au deuxième étage d'une petite résidence cossue, le Gerville, située au numéro 1 de l'allée des Marronniers. C'est une copropriété de 40 appartements, tout ce qu'il y a de plus paisible. Elle y a d'abord vécu avec sa mère, puis toute seule, lorsque cette dernière a décidé de s'installer à la campagne à une centaine de kilomètres de là. Audrey est restée à Soisy pour ne pas s'éloigner de ses amis et pour faire ses études. Le mercredi 14 septembre 2005, elle doit retrouver une copine pour aller faire du shopping. Mais à l'heure donnée, Audrey n'est pas au lieu de rendez-vous. Son amie attend un peu. Puis, voyant le temps passer, elle commence à s'inquiéter. Dans la soirée, elle n'a toujours pas de nouvelles d'Audrey. Le lendemain, le jeudi 15 septembre, elle décide de se rendre à la résidence de son amie. Elle sonne à l'interphone, frappe à sa porte, insiste. Pas de réponse. La voiture d'Audrey, en revanche, est bien garée sur le parking. Son amie parle avec une voisine, Marie-Claude, qui connaît bien la famille Joanet et est une proche d'Audrey. Marie-Claude se veut rassurante. L'été touche à sa fin, il fait encore bon. Peut-être Audrey a-t-elle simplement décidé de prendre l'air quelques jours. L'amie d'Audrey est sceptique. Mais elle se laisse convaincre. Les deux femmes décident de ne pas appeler les pompiers. Elles prennent quand même la peine de sonner chez le gardien de la résidence pour l'alerter. Jean-Luc Caillez, 48 ans, travaille ici depuis un peu plus de 2 ans et fait attention aux habitants du Gerville. Il va jusqu'à l'appartement d'Audrey et laisse un mot sur la porte. Si elle rentre et qu'elle le voit, elle viendra le prévenir. Et cela permettra de rassurer tout le monde. Les heures passent, puis une seconde nuit. Marie-Antonia Joanet, la mère d'Audrey, commence à son tour à s'inquiéter. Il n'est pas habituel que sa fille la laisse sans nouvelles pendant plusieurs jours. Elle contacte ses amis, qui lui expliquent qu'elles non plus n'ont pas vu l'étudiante en journalisme. 3 jours après la disparition d'Audrey, sa mère décide de prendre la route en direction de Soisy-sur-Seine et d'attendre elle-même le retour de sa fille. En moins d'une heure, Marie-Antonia est sur place. Elle a les clés de l'appartement d'Audrey et avec Marie-Claude, elle entre à l'intérieur. Damien, sans grande surprise, Audrey n'est pas dans son appartement.
Non, a priori, il n'y a pas de trace d'un départ volontaire. Les affaires d'Audrey sont là. D'ailleurs, elles sont un peu en désordre, ce qui interpelle un petit peu sa mère parce que ça ressemble pas tellement à Audrey de laisser comme ça un appartement pas rangé et des affaires qui traînent. Mais elles sont presque rassurées, la maman d'Audrey et Marie-Claude, parce que elles avaient peur finalement de trouver des éléments angoissants, pourquoi pas un corps si elle avait fait un malaise ou des traces de lutte. Et il n'y a rien de tout ça dans l'appartement, rien de suspect. Elle remarque aussi que le grand sac de voyage d'Audrey dépasse. Il est rangé un peu sous le lit, mais il dépasse un petit peu. Donc a priori, elle n'est pas non plus partie en vacances ou en week-end.
Après cette visite de l'appartement, elle décide d'aller signaler la disparition d'Audrey à la gendarmerie.
Nous sommes le vendredi 16 septembre, ça fait donc 3 jours que Audrey n'a plus donné de nouvelles et elle se présente donc, sa maman et Marie-Claude, à la gendarmerie. Elle donne un petit peu tous les éléments qui les ont rendues inquiètes ces derniers jours, mais le gendarme va leur répondre que bon, Audrey, elle a 24 ans, elle est adulte, elle est majeure et qu'à ce stade, faute d'ailleurs d'éléments dans l'appartement qui soient inquiétants ou suspects, c'est pas encore une disparition inquiétante. Et il leur dit, bah écoutez, il dit surtout à sa maman, revenez lundi si vous n'avez toujours pas de nouvelles d'elle.
La mère d'Audrey décide de s'installer dans l'appartement de sa fille en attendant son potentiel retour.
Oui, parce qu'elle ne se voit pas repartir chez elle à la campagne, elle est quand même inquiète de ce qui se passe. Donc elle va s'installer dans cet appartement qu'elle connaît bien. Elle va essayer de fouiller un petit peu pour essayer de trouver des éléments qui pourraient expliquer cette absence. Elle ne va pas trouver grand-chose. Et puis à un moment donné, la nuit tombe, elle se couche dans le lit d'Audrey, mais elle ne trouve pas le sommeil. Et tout d'un coup, elle a comme un flash, comme un mauvais, très mauvais pressentiment. Et elle passe sa main sous le lit et elle touche un objet, quelque chose qu'elle avait déjà touché dans l'après-midi quand elle avait essayé de regarder un petit peu, de fouiller l'appartement et qu'elle avait pris pour une peluche. Et en fait, c'est pas une peluche, ce sont des cheveux, ce sont les cheveux de sa fille, parce que sous le lit, il y a le cadavre de sa fille.
Après avoir passé la journée à chercher sa fille et à fouiller son appartement, Marie-Antonia vient de trouver le corps d'Audrey, dissimulée sous le lit, où elle est elle-même restée une partie de l'après-midi. L'onde de choc est immense pour la mère de famille et elle se propage aux habitants de la résidence, alertée par ses cris. Les voisins appellent la gendarmerie. Marie-Antonia est transportée à l'hôpital en état de choc, tandis que les gendarmes investissent l'appartement au beau milieu de la nuit, sous les regards médusés des habitants du Gerville. Le cadavre d'Audrey laisse apparaître de manière très nette des lésions, qui laisse penser qu'elle a été attachée au niveau des poignets et au niveau du cou. Bien qu'elle soit nue, impossible de dire pour le moment si elle a subi des violences sexuelles. Quelques dizaines de minutes plus tard, la police scientifique est sur place pour prélever toutes les traces qui pourraient être exploitées pendant l'enquête. Les empreintes ADN répandues dans l'appartement sont collectées, les poils et les cheveux prélevés, des traces de sperme sont détectées et envoyées immédiatement au laboratoire pour analyse. Mais il faut patienter plusieurs jours pour avoir les résultats. En attendant, les gendarmes examinent tous les autres indices qui peuvent leur servir et tentent d'établir un scénario sur ce qui s'est produit. Ce qui est certain, c'est que la personne qui est venue tuer Audrey n'est pas entrée par effraction. Donc, la jeune femme a ouvert la porte. Pourtant, la dernière personne à avoir vu Audrey est une de ses amies qui est justement venue chez elle le mardi 13 septembre au soir. Et elle est formelle. Audrey avait prévu, après son départ, de se coucher, car elle devait se lever tôt le lendemain. Très peu probable donc qu'elle ait fait venir chez elle qui que ce soit, tard, le soir du 13 septembre. Damien, les gendarmes essaient néanmoins de fouiller un peu la vie d'Audrey pour voir si elle n'a pas des relations qu'elle cacherait à ses proches.
Oui, ce qui est assez classique dans ce type d'enquête. On fait l'entourage, on essaie de voir les amis, y compris ceux que la famille ne connaît pas forcément. Mais Audrey, c'est une jeune femme de 24 ans, à la vie plutôt calme, plutôt lisse, étudiante, célibataire, souriante, beaucoup d'amis, aucune aspérité visible. Donc les gendarmes font aussi le tour des voisins de la résidence. Et il y a un voisin qui va leur dire que cette nuit-là, la nuit où donc Audrey a été tuée, il a entendu un cri d'horreur. Alors, il est sorti de chez lui à ce moment-là, il n'a rien vu dans les parties communes, dans les couloirs, il n'a pas entendu d'autres cris ensuite, donc il est retourné se coucher. Il pense que ça s'est produit aux environs de 4h du matin.
Dans la résidence, il y a une personne qui va s'avérer particulièrement utile à l'enquête des gendarmes, c'est le gardien.
Il s'appelle Jean-Luc Caillez, il a 48 ans, alors c'est le gardien, il veille un petit peu sur la résidence et ses habitants, il s'intéresse, il pose pas mal de questions, il arrange aussi pas mal de choses lorsque les gendarmes font des allées et venues dans l'appartement et dans l'immeuble, il libère des accès s'il faut, il donne quelques renseignements sur les copropriétaires. Donc les enquêteurs, au départ, ils se sentent plutôt soutenus et ils voient plutôt d'un bon œil ce que fait Jean-Luc Caillez.
Jusqu'à ce que cet homme fasse une confidence assez particulière à un des gendarmes.
Oui, un matin, il va se rapprocher rapprocher d'un des gendarmes qui est présent et il lui dit « Bon voilà, je préfère prendre les devants parce que de toute façon, je pense que vous allez bientôt me soupçonner. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai déjà fait des séjours en prison en 1984 et en 1991. » Et il dit au gendarme, il ajoute « Des séjours assez longs parce que j'ai été condamné deux fois pour viol. »
Comment réagit le gendarme ?
Alors, il est surpris pour pas mal de raisons. D'abord, que quelqu'un vienne comme ça au-devant de vous quand vous êtes gendarme pour vous donner des éléments comme ça, c'est déjà un petit peu surprenant. Surtout que, voilà, il vient donner des éléments sur des condamnations assez lourdes. Mais ce qui va surtout faire tiquer le gendarme, c'est que Jean-Luc Caillez lui parle d'un viol. Il lui dit « Moi, j'ai été condamné pour viol, donc vous allez me soupçonner pour le viol d'Audrey. » Le problème, c'est que le gendarme, il sait que publiquement, il n'a jamais été question du viol d'Audrey, ni dans la presse, ni ailleurs. Donc, les gendarmes, officiellement, ils ne cherchent entre guillemets qu'un tueur. Et la seule personne qui est susceptible de savoir qu'il y a eu un viol, bah, ça ne peut être que le meurtrier.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré au meurtre d'Audrey Jouannet. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.